la douleur est insoutenable pour le mi-homme, mi-monstre. Il en veut à son créateur et à compter de ce jour, il n'aura de cesse de le poursuivre afin d'obtenir de lui une compagne. Ce que Frankenstein acceptera dans un premier temps avant de faire marche arrière et de détruire son œuvre. La vengeance de la créature est terrible. Il assassine de sang-froid le meilleur ami, puis la jeune épouse de Victor, Elisabeth. À partir de là, s'ensuit une poursuite infernale entre le monstre et son géniteur. Frankenstein est résolu à mettre fin au jour de ce tueur maudit qu'il a engendré. Le livre s'achève avec la mort de Victor Frankenstein, qui est à bout de force. La créature, n'ayant plus de raison d'être, disparaît pour se donner la mort à son tour. Voici donc l'histoire triste et pathétique de Frankenstein et de sa progéniture mal aimée. Et finalement, c'est à se demander qui du créateur ou de la créature est le véritable monstre. Quoi qu'il en soit, jamais créature n'aura autant échappé à son créateur, dans le mythe. Il a eu de cesse d'être adapté, ce qui explique aujourd'hui les nombreuses confusions autour de l'histoire et de ses personnages.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H de Marie Shelley. Une histoire à vous glacer le sang. Un laboratoire rempli d'organes humains et d'animaux. Une créature morte qui revient à la vie. Je vous raconte ce moment où une jeune fille de 18 ans a tout réuni pour créer un des plus grands romans de science-fiction de tous les temps, Frankenstein, ou le Prométhée moderne. La version que l'on connaît aujourd'hui de Frankenstein n'est en fait pas tout à fait la même que celle que Marie a écrite sur les bords du lac Léman en 1816. Le livre a connu plusieurs vies et plusieurs réécritures depuis sa toute première publication. Il est d'abord publié une première fois en 1818, anonymement. Est-ce parce que le milieu littéraire est encore extrêmement misogyne? L'auteur est une jeune fille de 20 ans, encore novice. Alors évidemment, ça n'aide pas. On sait en tout cas que le manuscrit de Marie a été rejeté par plusieurs éditeurs avant d'être enfin accepté par un éditeur spécialisé dans la littérature à sensation. Est-ce parce que ce dernier ignorait tout de l'identité de l'auteur qu'il a accepté de publier le roman? Eh bien, l'histoire ne le dit pas. Mais une chose est sûre, l'anonymat n'a pu que renforcer le mystère autour de l'œuvre terrifiante de Marie Shelley. Quand le livre paraît enfin, il a tout du roman bon marché. Couverture grise, reliure de mauvaise qualité. Très vite, on attribue la paternité de l'ouvrage anonyme à Percy Shelley. Deux indices laissent à penser que c'est lui qui a écrit Frankenstein. Il en a signé la préface et le livre est dédié à William Godwin, le père de Marie, mais aussi l'ancien mentor de Percy, avant que celui-ci n'enlève sa fille. Quand on découvrira enfin le poteau rose, les critiques se déclareront déçus. Je cite « Il est dommage qu'une femme puisse être derrière cette histoire, effaçant par là de sa plume la douceur inhérente à son sexe. » On comprend mieux donc que Marie ait choisi l'anonymat. Même s'il subit son lot de critiques, très vite, le roman est un succès et 5 ans plus tard, Marie négociera une nouvelle édition avec un deuxième éditeur et, fait important, avec son nom, enfin, sur la couverture. Mais le livre ne sera pas signé Marie Godwin, il sera signé Marie Shelley. Vous l'avez deviné, Marie et Percy se sont entre-temps mariés. Un heureux dénouement pour le couple, pourtant terni par un événement tragique. Si Marie a pu épouser Percy, c'est parce que la femme de ce dernier s'est suicidée. La rumeur veut qu'elle soit tombée enceinte d'un autre homme et se serait jetée dans la Serpentine, le lac, qui traverse Hyde Park. Quoi qu'il en soit, Percy vient de faire de Marie, entre guillemets, une femme honnête, ce qui permet enfin à la jeune fille de se réconcilier avec son père et surtout de signer de son nom d'épouse la deuxième édition de Frankenstein. Elle écrira plus tard « Mon mari eut à cœur de me voir prouver que j'étais digne de mes parents » en inscrivant mon nom sur le livre d'or de la renommée. nouvelles éditions suivront, encore en 1832 et à l'aube de la mort de Marie en 1849. Dans cette dernière édition, le texte a été entièrement réécrit pour donner la version que nous connaissons aujourd'hui. Une version qui se trouve fortement influencée par la succession de tragédies que va encore traverser Marie. Nous l'avons évoqué tout à l'heure. Marie a entretenu toute sa vie une relation ambiguë avec la mort, qui lui a pris des êtres chers, comme sa mère, son premier enfant, mais qui a aussi nourri son imagination et son œuvre. Cette obsession morbide va être exacerbée par la perte de deux autres enfants. Elle va perdre sa petite fille, Clara, le troisième enfant qu'elle a eu avec Percy. Quelques mois plus tard, c'est son aîné, le petit William, qui est emporté par la malaria lors d'un séjour en Italie. Marie est anéantie et se réfugie de plus en plus dans l'écriture. Elle ne parviendra à remonter la pente qu'à la naissance de son quatrième enfant, le petit Percy Florence, le seul qui lui survivra. Mais elle fait de nouveau une fausse couche, 3 ans plus tard. Elle perd tellement de sang qu'on craint pour sa vie. C'est son époux, Percy, qui lui sauve la vie in extremis en la plongeant dans un bain d'eau glacée. Et le malheur va continuer de s'acharner sur la jeune femme. Percy et un ami, accompagnés d'un jeune mousse, partent traverser le golfe de Livourne en Italie sur un petit voilier qu'ils ont construit. Quelques jours après leur départ, Marie reçoit une lettre écrite. « Chère Marie, j'espère que cette lettre vous trouve au mieux. Pardonnez mon empressement à vous demander si vous avez reçu des nouvelles de notre cher Percy. J'ai quelques raisons de m'inquiéter car son bateau n'est toujours pas arrivé à mon port. Vous m'avez pourtant assuré de sa présence ce soir à la réunion de notre cercle littéraire. Je vous prie, chère Marie, de me rassurer sur ce point en m'écrivant que notre ami est auprès de vous. Votre serviteur, Legg Hunt. » C'est ce même Legg Hunt, écrivain et ami du célèbre poète John Keats, qui, en compagnie de Lord Byron, identifiera le corps de Percy quelques jours plus tard sur une plage. Cette nouvelle perte est d'une violence inouïe pour Marie. Mais elle a un fils, dont elle doit assurer l'existence et l'éducation. Elle ne peut donc en aucun cas s'abandonner à la dépression. Mais elle est profondément bouleversée par la perte de son époux. N'a sans doute pas été le compagnon et le mari idéal. Il s'occupait peu d'elle, collectionnant les maîtresses et prônant l'amour libre dans ses poèmes qu'il dédiait à d'autres femmes. Sans doute, Marie a-t-elle fait semblant d'adhérer à ses principes, mais on devine à travers ses écrits qu'elle l'aimait profondément. Et c'est sans doute à contre-cœur qu'elle s'est résolue à prendre des amants et à fermer les yeux sur la vie dissolue de son mari. Marie écrira. Quand le vautour de mon chagrin s'endort un instant sur sa proie, sans que se relâche jamais l'étau de ses serres, cependant je me sens glisser dans une léthargie plus terrible encore que le désespoir. À la mort de Percy, Marie n'a que 25 ans. 25 années ponctuées de deuil. C'est sans doute cette succession de tragédies qui a permis à Marie de pousser aussi loin les thèmes de la mort, de la résurrection et de l'immortalité. Qui d'autre mieux qu'elle pouvait traduire auprès du lecteur les tourments et les émotions qui découlent de la perte d'un être cher qu'on souhaite à tout prix réanimer? Alors, Frankenstein ou le Prométhée moderne, est-ce vraiment une histoire d'horreur? Au début peut-être, mais finalement, lorsque l'on découvre la vie de Mary Shelley, le roman apparaît sous un nouveau jour. On comprend que c'est avant tout une histoire bouleversante, écrite par une femme plusieurs fois brisée, et qui résume en somme les souvenirs de son amour, de sa souffrance, de ses espoirs déchus et de sa solitude. J'ai d'ailleurs une anecdote à vous raconter sur cette femme que l'on croyait si libérale, mais qui au fond était profondément romantique. Mary Shelley meurt d'une tumeur cérébrale le 1er février 1851, à seulement 53 ans. Après la mort de sa mère, son fils Percy se rend dans sa chambre, sans doute dans l'idée de vider des armoires et de trier un peu ses papiers. Il respire le tissu de velours noir d'une robe que Marie portait depuis la mort de son père. Son odeur est encore là, il le bouleverse. C'est comme si sa mère était tout près de lui. Percy s'assied devant le petit secrétaire vénitien en bois laqué de Marie. C'est sur ce bureau qu'elle a écrit ses derniers romans, la plupart fantastiques. Il ouvre les tiroirs, les uns après les autres, pour en sortir des cahiers de notes, des lettres, des factures. Soudain, en vidant un tiroir, il découvre que le fond de celui-ci bouge légèrement. Il comprend rapidement que le petit tiroir en cache un autre secret. Il parvient à ouvrir le double fond et fait alors une touchante découverte. Il semblerait que sa mère y ait caché ses précieuses reliques. Il y a là ce qu'il devine être les mèches de cheveux de ses frères et sœurs qu'il n'a pas connus. Des cheveux fins et doux, des cheveux d'ange. Il découvre le carnet de poésie et de notes que sa mère partageait avec son père, véritable symbole de leur complicité littéraire. Il découvre enfin un objet emballé dans un poème de son père, Adonais. Il lui faudra quelques secondes pour réaliser que cet objet n'est autre que le cœur de son père. Il se souvient alors de cette histoire que lui a racontée Lord Byron, l'ami de toujours. Quand les corps de son père et de ses compagnons de voyage ont été retrouvés sur la plage, 10 jours après le naufrage, Byron les a fait brûler à même la grève, comme il en était coutume en Italie. Une chose incroyable s'est alors produite. Byron et l'écrivain Leigh Hunt, autre ami de son père présent ce jour-là, ont réalisé que le cœur de Percy ne brûlait pas. Aussi ont-ils emporté ce qu'il restait de leur ami pour le restituer à sa veuve, Marie. Un siècle plus tard, médecins et scientifiques évoqueront qu'une possible tuberculose a pu entraîner une calcification du cœur de Shelley. C'est ce cœur que Marie, femme pourtant malmenée et trompée, a conservé toute sa vie auprès d'elle, en souvenir de celui qu'elle avait éperdument aimé. Voilà donc pour...